t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, Katanga Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, ce magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Après avoir convoqué la semaine dernière une commission paritaire avec certains partenaires de l'éducation, syndicats et autres, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'EPST et celui du budget, a signé avec les enseignants un protocole qui alloue un montant supplémentaire de 40 000 francs congolais sur les salaires de chaque enseignant, toutes catégories confondues, pour sauver la rentrée scolaire 2021-2022. Entre-temps, une frange de syndicats qui n'était pas associée à ces assises continue à menacer d'observer la grève. Quelle est la situation chez vous en ces jours de la reprise des cours et comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyarasa et Jocelyne Mukendi concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Gabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Jean Bosco Pouna, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Alors, quelle est la situation aujourd'hui?
Bon, la situation aujourd'hui, c'est une situation de non-reprise de travail sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, hormis les Kasaï orientales, notamment la ville de Mbujimayi, où séjourne le ministre des tutelles, c'est à juste titre. Parce que là, on a contraint les enseignants à travailler. Mais dans la plupart des provinces de la République démocratique du Congo, eh bien, le mot d'ordre lancé par la synergie des syndicats des enseignants a été suivi scrupuleusement. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir féliciter tous ces enseignants qui comprennent. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons nous faire une véritable amélioration de nos conditions de vie. Ça va nous permettre, JR, de pouvoir faire correctement le travail sur le terrain. Vous savez que la qualité de l'enseignement doit avoir un contenu. Nous avons regardé et observé pendant 2 ans, surtout l'année qui venait de s'achever. C'était difficile. Les enfants n'avaient plus la formation attendue. Voilà pourquoi, en tant que syndicat responsable, nous disons, nous allons nous mettre devant les élèves en toute responsabilité et non comme des mercenaires.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que votre syndicat ou encore la synergie des syndicats des enseignants ne soit pas associé à cette commission paritaire tant réclamée par vous?
Bon, vous savez que les méthodes de gestion n'ont pas véritablement changé. Je vais parler du nouveau pouvoir. Vous savez que nous avons milité pendant longtemps pour l'avènement d'un état de droit. Apparemment, en matière de gestion sociale, en matière de gestion des syndicats, je vais parler du dialogue social, le gouvernement Sam Alukonde a encore du chemin. Ce sont les mêmes méthodes du passé qu'on a repris. Eh bien, on sollicite les syndicats qui ne sont pas porteurs de revendications, justement pour les flouer. Et même lorsque vous dites à l'entame de votre émission qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé, je dois vous dire que non, il n'y a pas un protocole d'accord. Et même si on doit avoir un protocole d'accord, vous parlez de 40 000 francs. Je crois que c'est une véritable insulte à l'enseignant. Voilà pourquoi nous, au niveau de la synergie, tous les syndicats membres de la synergie et tous les enseignants d'ailleurs à 99% sont dans la synergie. Et ils se sont dit trop c'est trop cette fois. En tout cas, on va regarder le gouvernement. Il doit discuter, il doit ouvrir les négociations franches et sincères. On ne peut pas continuer à discuter sur fond de ruse comme on le faisait autrefois. Aujourd'hui, dans les cahiers des charges de la synergie, dans les mémorandums qu'on a envoyés au président de la République, nous demandons au président de la République une politique salariale. Nous n'avons pas besoin qu'on puisse saupoudrer 5 000 francs, 10 000 francs, qui ne vont pas résoudre les véritables problèmes de l'enseignant. Et d'autres problèmes sont restés et sont pendants, notamment la désactivation des écoles. On arrive et on désactive irrationnellement les écoles au moment où la plupart des écoles désactivées ont une population scolaire, ont des enseignants qui font aujourd'hui beaucoup de mois sans être payés. Je crois que c'est un tort qu'on fait à l'éducation et nous ne pouvons pas comprendre comment le ministre des tutelles est arrivé à ce point-là. Donc, félicitations à tous les enseignants, mais maintenant il faut préparer la résistance parce que nous avons donné un mois au gouvernement et nous attendons que pendant ces un mois dans l'entretemps, que les vraies négociations commencent de manière sincère et de manière tout à fait responsable.
Voilà. Alors on va parcourir l'ensemble du territoire pour nous faire une idée très claire sur la reprise des cours. Alors Simon Tsiloulou, vous êtes avec nous et Alidor, on va vous retrouver et nous rappelons à ceux qui veulent intervenir dans cette émission pour nous brosser la situation qui prévoit actuellement chez eux de composer les 081 890 63 30.
Parole aux auditeurs.
Commençons avec Matadi. Simon Tsiloulou, vous nous avez appelé. Et bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour JR, bonjour à l'invité et bonjour aux auditeurs qui nous suivent à travers le monde.
Alors, quelle est la situation, en fait, quelle est la situation chez vous?
Nous sommes déjà dans la préparation d'une marche pour aller déposer la déclaration auprès de l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale, afin d'obtenir le soutien de cet organe et protéger les enseignants pendant ce moment que nous attendons des réponses du gouvernement aux préoccupations des enseignants. Mais c'est vrai qu'à Matadi, en tout cas, 100% d'enseignants, les mots ont relancé le samedi 2 octobre, a été respecté à 100% par les enseignants, sauf que on a demandé aux parents de garder les enfants à la maison, mais à faible pourcentage, on a vu 15% d'enfants qui se sont présentés dans des écoles. J'ai les données de Kazangulu. Kazangulu, aucun enseignant à l'école. J'ai Madimba, j'ai Mbandangungu, Songololo, Luozi, Kimbula, Sekebanza, Sela, Lukula, Mwanda, Boma, partout il n'y a pas d'enseignants dans des établissements scolaires. C'est ici où je viens pour dire que le gouvernement doit cesser de résoudre les problèmes par thérapeutique de choc. Il faut d'abord un choc pour résoudre le problème. Ça ne nous crédibilise pas et ce n'est pas une bonne méthode de faire. Moi, je pense, avec un ministère bien organisé, parce que cet arrêt de travail ou cette grève lancée, ce n'est pas seulement une façon de tourmenter le ministre ou sinon de les torturer. C'est une façon d'ailleurs de le faire accepter, parce qu'il vous souviendra, le ministre a eu les très bonnes intentions, le ministre a eu à proposer des choses au gouvernement, des 100 000 francs, la retraite, tout ça qu'il a eu à proposer. Mais comme il n'a pas tous les leviers de décision, chaque ministre défend son secteur et lui est seul. Et les choses ne sont pas acceptées totalement par rapport aux desiderata que lui, des enseignants qui l'amènent au Conseil des ministres. Et quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on voit que les enseignants refusent. C'est une interpellation pour le gouvernement, afin que tout ce que le ministre de l'EPC propose comme solution soit pris en priorité. Et au niveau des ministères aussi, de travailler de manière planifiée. Vous avez entendu, la commission paritaire a proposé 20 000 francs pour nous qui sommes dans les chefs-lieux et 20 000 francs comme compte de Bibois, accord de Bibois et 20 000 francs prime de Brousse. Ça fait 40 000 francs pour les enseignants de Brousse. Ça ne représente rien. Ça signifie que le ministère travaille sans PAO, donc le plan d'action opérationnel. Vous savez, les enseignants, ce n'est pas seulement être payé qui importerait, mais aussi avoir un programme bien signalé, bien détaillé. Si on a un plan d'action opérationnel qu'on appelle le PAO, on dit comme on a 87 000 enseignants éligibles à la retraite, on fait un plan opérationnel que nous prenons 8 ans. chaque année, on paye par exemple 10 700 dans 8 ans. De telle enseigne que même l'Assemblée nationale sait que je dois réserver chaque année un montant pour les retraités, pour les retraités. Et c'est même le gouvernement. Ça sera une sorte de boussole pour le gouvernement et suivi pour le ministère sous-sectoriel. Mmh. Vous verrez, nous avons les retraitables 87 000, les MI 81 000. Aujourd'hui, avec 81 000 MI, il suffit que le gouvernement débloque 10 millions de dollars. Chaque enseignant aura, au moins si vous faites bêtement les divisions, 123 dollars, donc ce qui fait 246 000 par enseignant, pour 10 000 dollars simplement, on paye 246 000 francs aux 80, une moyenne, parce qu'on va répartir ville et tout ça qu'on sort. Vous voyez que ça peut porter la solution.
Oui, il y a même un commentaire, il y a un commentaire sur notre page Facebook par rapport à vos calculs. Il y a un auditeur qui a même insisté en disant si on prenait l'argent qu'on a déboursé pour l'achat, par exemple, des véhicules des députés, ça vous fera autour de 20 millions de dollars. Et on pouvait directement résoudre cette affaire
des NU. Mais par exemple, ça, parce que le problème là arrive pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de PAO, donc des plans d'action opérationnels. Et puis, dans les plans d'action opérationnels, parce qu'il y a retraite, il y a nouvelle unité, il y a Moody, vous sortez un plan d'action prioritaire. Qu'est-ce que nous devons faire dans ceci? Puisque Moody tel qu'il est là, il y a déjà des acquis, il y a déjà des avancées. Les enseignants ne sont pas impayés, ils sont payés. Alors là,
oui. Alors Simon.
Il reste combien pour atteindre Moody selon les grades?
Voilà, Simon.
Quand on a ça, on a un montant. On dit non, chaque année, on va ajouter 25% par exemple. Ça sera de manière automatique. Mmh. Par année, le gouvernement ajoute 25%. Et l'Assemblée nationale travaille dans ce sens parce qu'il a des évidences qu'elle doit appliquer. Et vous voyez, si on avait le PAO, on avait le PAP, on dit ça, donc voilà ce que nous avons prévu. Voilà comment nous allons marcher. Même s'il n'y a pas d'argent, les enseignants peuvent rentrer parce que il y a un plan détaillé, bien fignolé, qui va faire en sorte que chaque année, on va ajouter...
Donc, si je comprends bien, au niveau du secteur de l'enseignement, on a...
Tous ces programmes de PAP prioritaires et plans d'action opérationnels, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 4 ans, et vous verrez que le ministère va gagner en termes de confiance et en termes de solutions. Et c'est comme ça, d'ailleurs, vous avez vu, on a remis des chiffres, puisqu'on n'a pas de plan d'action prioritaire, on n'a pas de plan d'action opérationnel. Pour preuve, les 20 000 francs, c'est venu où? C'est calculé par rapport à quoi? De tout ça qu'on sort. Vous voyez, les 20 000 de prime de brousse. La prime de brousse ne remplace pas le transport et le logement. Le transport et le logement sont des primes pour tous les enseignants. La prime de brousse, c'est un supplément qu'on donne aux enseignants qui vont en brousse pour les motiver parce que les qualifiés ne veulent pas aller en brousse, ils veulent rester. Et quand on donne la prime de brousse, c'est pour l'appuyer ou les motiver d'aller là-bas. Parce que s'il n'y en a pas, aujourd'hui, il y a maintenant fuite de cerveau. Le fuite de cerveau, l'exode de cerveau des villes, des villages vers les villes des provinces. On laisse les problèmes de carte scolaire criant parce qu'on donne trop en ville.
Voilà, alors Simon, on va revenir à vous. Nous vous gardons en ligne et on va revenir à vous. Le temps d'écouter Alidor. Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour Ali. Maître Alidor. Voilà. Alors, Alidor, si vous pouvez dynamiser votre voix, parce que là, on vous attend à peine. Parlez un peu fort.
Je pense que maintenant, ça va.
Oui, ça va. Allez-y.
Oui. Nous saluons tout d'abord la bonne volonté du gouvernement congolais qui a eu à ajouter une somme de 40 000 francs à chaque enseignant. Mais jusque-là, c'est dérisoire. Ça ne représente rien, monsieur Jure. Quand vous prenez le projet de budget 2022, l'accent ou priorité est accordé à certaines institutions du pays, telles que la présidence, le gouvernement et le parlement. Mais le secteur de l'enseignement est relayé au second plan, pour ne pas dire les cadets des soucis de ce gouvernement. C'est comme ça que nous recommandons au gouvernement de bien vouloir, parce que c'est un gouvernement de guerriers.
Alors Ali, vous êtes à Kananga. Dites-nous un peu, quelle est la situation chez vous aujourd'hui?
Oui, la situation chez nous aujourd'hui est qu'il y a une rentrée timide, des classes. Certaines écoles ont ouvert leurs portes. Nous avons vu la présence de bleu blanc sur toutes les rues de la ville de Kananga. Et à vrai dire, la rentrée scolaire est effective dans la ville de Kananga. Elle est effective parce que les écoles ont ouvert, les élèves ont fréquenté les écoles et il n'y a pas eu de mots d'ordre de grève qui a été observé dans la ville de Kananga.
Voilà. Alors donc, il n'y a pas eu de mots d'ordre. Les syndicalistes, les enseignants sont à l'école.
Oui, effectivement, monsieur Gérard, les enseignants ont repris les chemins de l'école. Les enseignants ont repris les chemins de l'école et les élèves aussi, les parents ont envoyé leurs enfants à l'école.
Voilà. Merci beaucoup, Ali. Je crois qu'avec notre invité, voilà, on va prendre François. François, vous êtes également à Mouika. François, vous êtes avec nous.
Oui, Gérard Lungembo, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à votre invité.
Alors, vous êtes à Mouika, au niveau du Kasaï. Et quelle est la situation chez vous?
Merci très bien. D'abord, je tiens à vous décrire la situation qui se déroule dans la province du Kasaï, particulièrement à Mouika, où je me réside. Vous savez que Mouika est le chef-lieu de la province éducationnelle 2, Kasaï 2, où il y a les Proverbes, il y a les Duprosec, il y a l'IPP. Malheureusement, ils sont à Kinshasa au lancement de la promotion scolaire. Voilà. Et ce matin, j'ai sillonné dans la cité. L'ambiance est au rendez-vous. J'ai même discuté avec quelques enseignants où mon fils et ma fille étudient à l'EPSNCC. Mais il n'y a pas la grève à Mouika. Au Kasaï, la rentrée scolaire a été effective. Mais laissez-moi vous dire que les enseignants et quelques personnes s'inquiètent de la brousse, de la prime des brousses, telle qui est promise par son excellence Tony Mwaba, qui n'a jamais été effective ici à Mouika. Et ils n'ont pas salué avec bravoure l'ajoute de 40 000 francs, c'est insignifiant. Laissez-moi vous dire que, c'est comme je parlais de la brousse, la prime de la brousse, je voulais dire, nous avons les enseignants qui ont quitté récemment Il est beau, décaissé, le beau, pour venir participer dans des formations. Nous avons les réseaux des 57e, 45e, les écoles des églises des réveils au Congo. Il faut voir comment ils ont souffert. Quelques-uns ont passé de chez moi, ils ont emprunté des motos. Les distances sont très compliquées, mais la prime des bourses n'a jamais été effective. Mais sinon, nous interpellons le gouvernement central dit de Wario de pouvoir respecter les engagements pris avec les enseignants. Et nous interpellons aussi les enseignants qui sont au Tanganyika, à l'Est, à Pulu, et de citer avec la grève.
Merci beaucoup. Alors, Kalo, vous êtes en Boujmaï, là où le ministre a lancé officiellement la rentrée scolaire 2021-2022. Quelle est la situation là-bas, Kalo?
Oui, bonjour M. Gérard, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. Oui, je suis en Boujmaï, effectivement, là où le ministre lance d'un moment à l'autre la rentrée scolaire. Mais néanmoins, nous n'avons pas vu chez nous ici quelques cas, parce que les enfants qui étaient partis, je parle d'abord de mes enfants, moi, étaient partis, ils sont rentrés, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais néanmoins, j'ai vu quand même la couleur blanche sur la route. Mais à ce qui concerne le sujet du jour, vous vous rappelez la fois passée, j'avais dit, c'est le gouvernement qui est le responsable de l'éducation en RDC. Vous savez, l'éducation ailleurs, j'avais parlé la fois parce que si vous prenez les États-Unis, vous prenez quelques parties de l'Asie, vous allez trouver que ces gens ici avaient adopté un secteur. Le secteur clé, c'est l'éducation. C'est ce secteur plutôt qui avait boosté effectivement leur économie. Mais chez nous, je me rends compte que c'est du tâtonnement. Regardez ce que nous avons parlé avec vous la fois passée. Aujourd'hui, il y a une frange qui n'accepte pas les protocoles d'accord. Mais regardez, quand on ajoute aujourd'hui 40 000 francs aux enseignants, moi je trouve que ici il faut chercher une solution durable. Parce qu'aujourd'hui accordé, demain aussi, ils vont faire la même chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à nos autorités. Chercher une solution à court terme. Je peux dire aujourd'hui, ils ont sauvé la rentrée scolaire. Mais néanmoins, il faut toujours chercher une solution. Parce que la fois passée, il y a eu des revendications, il y avait les paliers salarial, il y avait aussi une discrimination au niveau de salaire.
Les zones salariales.
Vous savez, quelqu'un de Kinshasa, les gens qui touchent autre chose, je ne sais pas, ceux qui se trouvent à Kinshasa sont plus forts, sont plus intelligents que nos enseignants qui sont en Boujmaï, et surtout chez moi, du côté Lukalaba. Je me demande qu'est-ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, le ministre est chez nous ici pour lancer. Mais je me dis, vraiment, le gouvernement ne peut pas agir en malin. C'est-à-dire ici chercher de quelques syndicats pour les, je ne sais pas, pour dire corrompre, pour que ces gens-là acceptent. Mais accepter, est-ce que réellement ça va aider réellement un enseignant vraiment qui touche? Il y a des enfants, je suis à côté d'un enseignant. Quand je vois comment il souffre, mais il est enseignant que j'ai connu, il m'a enseigné. Et aujourd'hui là, si vous voyez, c'est une vie misérable vraiment. Moi, je trouve que nos politiciens et notre gouvernement de Warios, comme vient de dire notre ami, ils doivent peser, ils sont responsables. Moi, je me dis, quand ils ont ajouté 40 000, c'est sur base de quoi? Parce que les billets adoptés, moi, j'ai eu quand même à feuilleter ça, j'ai vu par-ci, par-là. Je ne vois pas la différence entre ce que nous avons vu comme budget de 2021 et ce de 2022. Mais ils ont ajouté sur base de quoi? C'est une fantaisie.
Voilà. Moi, donc vous nous confirmez qu'il y a eu effectivement la rentrée en Mbujimayi. La rentrée est effective.
Je vous affirme, en Mbujimayi, les enfants sont partis à l'école et il y a quelques enseignants qui sont aussi partis pour célébrer cette lancée de la rentrée scolaire.
Merci
beaucoup. Chez nous, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, Jean Bosco Pouna, en tant que porte-parole de la synergie des enseignants. Vous avez suivi les uns et les autres. Et on reviendra également à Simon Siloulou, qui est membre de la synergie. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCapi.net.
Nous poursuivons avec vous, parole aux auditeurs. Jean Bosco Pouna, vous êtes avec nous?
Oui, j'y ai.
Alors, vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai, il y a quand même quelque part où le mot d'ordre n'a pas été suivi. Alors, que cela vous fait exactement? Quel est le sentiment que vous avez?
Non, j'y ai. Je n'ai pas la même lecture que les parents du Kassai qui viennent de parler. D'ailleurs, j'ai bien peur de croire que la rentrée des classes et la politisation... parce que les enfants de la République démocratique du Congo ont besoin d'une éducation publique de qualité. Donc, les différents responsables de la synergie qui sont dans les Kassai ne nous donnent pas la même lecture que ceux qui viennent de parler. Et en plus, il faut dire ceci, JR. Ceux qui viennent de parler, me semble-t-il, ce sont des parents. Mais les parents qui pensent qu'on a besoin d'avoir des enseignants qui ne sont pas payés devant leurs enfants, mais c'est grave et irresponsable en même temps. Nous disons à ces parents qui viennent de prendre la parole qu'on a plus que besoin que nos enfants soient formés, soient éduqués, parce que demain, ces enfants doivent prendre la relève. Après, ces parents, quand ils seront partis, ces enfants doivent être compétitifs, ils doivent être en mesure de devenir ingénieurs, ils doivent être en mesure d'être des bons médecins, des bons avocats, des bons magistrats, des bons députés. Je crois que là, on fait fausse route. Si les enseignants ne sont pas très bien payés, où qu'ils se trouvent, nous devons nous mettre debout pour revendiquer. Donc je crois que la lecture du Kassai, c'est une fausse lecture. Il faut plutôt poser la question à nos représentants qui sont là. Maintenant, je reviens au débat. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique salariale. C'est un tort pour ce gouvernement de Félix Tshisekedi que de n'avoir pas la politique salariale. J'ai rencontré le ministre à plusieurs reprises. Je lui ai dit, et comme l'a dit notre représentant du Congo central, il nous faut une politique salariale, ce que lui a appelé le programme d'action, mais nous ici nous avons besoin de la politique salariale. Ça veut dire qu'est-ce que le gouvernement prévoit à moyen, à court et à long terme? Parce que les enseignants, ils veulent bien faire le travail, ils veulent éduquer, mais les syndicats responsables ne peuvent pas continuer à mettre les enseignants qui viennent à l'école démotivés et qui font le sous-enseignement. C'est un tort à notre jeunesse. Deuxième chose, JR, comment le budget de l'État peut-il se retrouver chaque année entre les mains des députés, des sénateurs, des politiques, de la présidence, du gouvernement? Ils s'accaparent 90% du revenu de notre budget et on laisse les miettes aux agents et fonctionnaires de l'État, aux enseignants. Je crois que ces choses-là doivent cesser. Je vais également ajouter, les enseignants doivent comprendre que c'est aujourd'hui ou jamais. Nous avons fait 2 ans, nous avons porté la gratuité parce que c'était notre demande, c'était une demande sociale. Les enfants sont allés à l'école, mais maintenant que nous constatons que lorsqu'on arrive à l'école, les professeurs n'enseignent plus comme par le passé, que les devoirs ne sont plus donnés. Je parle de tous les réseaux confondus. Que les devoirs ne sont plus donnés. Les enfants eux-mêmes constatent cela. Donc je crois que maintenant, il faut absolument que nous puissions nous lever pour dire non. La gratuité doit avoir un contenu et donc le gouvernement doit cesser de défier les enseignants. Nous avons suivi le gouvernement à travers le ministre de l'EPST. On est en train de défier les enseignants. On défie même les parents. On nous dit que non, la rentrée est effective. Je vous dis que la rentrée n'est pas effective sur l'étendue du territoire. Et ce que nous voulons, qu'on puisse régler les problèmes des enseignants. Parmi ces problèmes, il y a un nouveau barème qu'il faut donner, mais il n'y a pas que ça hier. Il y a des écoles qui ont été désactivées. Il y a des enseignants qui ont été, désactivés, qui ne touchent plus un salaire. Mais lorsqu'on va devoir les payer, nous devrons savoir s'il y aura des effets rétroactifs. Ces enseignants qui ont fait 3 mois, qui ont été désactivés, simplement parce que l'autorité l'a voulu. Je crois que lorsqu'ils vont, parce qu'ils ont compris que c'était une grave erreur, ils ont réactivé certaines écoles, mais qu'est-ce qu'on va devoir payer? Et enfin, lorsqu'on parle de 40 000 francs, mais c'est encore une promesse. Moi, je crois qu'il faut que le gouvernement se dise, non, il faut sauver l'éducation, mais il faut sauver les personnels qui travaillent.
Alors d'aucuns redoutent, je crois que c'est la même question que je vais poser à Simon Tsiloulou, d'aucuns redoutent que la situation de l'année scolaire passée elle puisse se reproduire. École sans enseignants, ça veut dire quoi? On aura des enfants qui sont à l'école, mais les enseignants ne vont pas donner la matière.
Mais il faut dire que les enseignants ne seront pas à l'école. Les quelques enseignants qui sont là à l'école, vous savez, lorsqu'on est dans la précarité, on croit que cette rencontre-là peut permettre qu'on puisse être en collision avec les élèves. Vous savez, si la corruption, la petite corruption-là, doit continuer dans les écoles, c'est toujours un tort à nos élèves, aux plus petits. Donc, école sans enseignants signifie... Les enseignants, ils vont rester à la maison. Nous allons attendre que le gouvernement ouvre les vraies négociations pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va devoir, qu'est-ce
qu'il y a. Oui, mais Jean Bosco, mais c'est la même situation. Nous l'avions déploré l'année dernière au collège Boboto, au lycée Kabambar, pour ne citer que les écoles, par exemple, de conventionnées catholiques, dont vous êtes d'ailleurs les syndicalistes. Alors, mais il y a eu des enseignants à l'école, mais qui n'admissaient pas la matière.
Ah, mais c'est bien dommage. C'est-à-dire que...
Et pendant deux mois comme ça, on a même perturbé les calendriers.
On a perturbé les calendriers, c'est vrai. Mais les responsables de tout ça, je crois que c'est l'État congolais. L'État congolais, aujourd'hui, se préoccupe des élections dans son budget. Il y a une bonne part pour les élections, mais il n'y a pas une part significative pour l'éducation. Mais nous, en tant que société civile, nous devrons veiller à l'éducation de nos enfants. Si nos enfants ne sont pas très bien formés, eh bien, nous serons demain gérés par d'autres peuples, nous serons dirigés par d'autres peuples. Donc, les grandes écoles qui ont été simplement démotivées, je crois qu'elles ont raison d'emboîter les pas à ce mot d'ordre de grève et je continue à les féliciter. Nous devrons nous mobiliser pour que le gouvernement règle les différents problèmes des enseignants. Je reviens sur la question relative à la retraite. Vous savez qu'on a donné, on a imposé une retraite cavalière, injuste, indigne aux enseignants, mais les enseignants qui ont été sur la liste de retraite jusqu'à aujourd'hui ne sont pas correctement notifiés. Il n'y a aucune notification qui vous sécurise, qui vous dit que non, voilà, j'ai ma notification, demain, après demain, je pouvais toucher mon dû. Il n'y a rien, alors rien, un désordre, un dysfonctionnement sans précédent. Donc,
voilà, on va y revenir avec vous, mais le temps... Simon Tsiloulou, vous êtes avec nous? Simon, vous êtes avec nous?
Là.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par vous, l'école sans enseignants? Parce que vous avez dit, en tout cas, les mots d'ordre ont été suivis à l'ensemble du Congo central.
C'est une stratégie syndicale de revendication des droits fondamentaux, parce que vous devrez savoir que l'enseignant n'a pas que des obligations. Nous avons rempli les obligations pendant tout un temps là. On a accompagné le gouvernement pour avec sous canal de ses obligations. Mais nous n'avons pas que des obligations, on a aussi des droits. Mais comprenez un peu combien des fois les droits de l'enseignant sont violés systématiquement. Je vous dis, je vous réitère ici, qu'à partir de l'année 2020, vous allez trouver la fréquence des cas de décès chez les enseignants a été augmentée au-delà de la moyenne. Parce que, à ce que je sache, selon les résultats que j'ai des services de rente et survie de la province au niveau de l'enseignement, au niveau du ministère de l'enseignement, on trouve qu'on n'avait jamais dépassé 17 décès par an, sauf s'il y a eu accident. Mais aujourd'hui, de janvier jusqu'en octobre ici, on est déjà à 187 décès. Qu'est-ce qui a fait ça?
Semble-t-il qu'à Matadi, un enseignant est décédé également le week-end, lorsque vous teniez, votre assemblée générale.
Oui, non, il est décédé à l'hôpital, ce n'est pas à l'assemblée, est de l'ITECOM. Alors, le problème c'est que la gratuité de l'enseignant a provoqué un afflux la gratuité de l'enseignement a augmenté l'offre scolaire qui a provoqué un afflux de façon que les ratios élèves-maîtres est passé du normal, donc du 25-30, à 90, à 100. Il y a même des classes de 120 élèves, parce qu'il y a la gratuité. Et l'enseignant devrait maintenant quadrupler des efforts, quintupler des efforts. Vous voyez, vous devez enseigner 25 ou 30, les ratios. Maintenant, vous êtes dans les 120, vous devrez vous dépenser. Vous devrez dépenser et se dépenser aussi pour que le jour puisse se terminer. Mais l'État n'a rien donné. Quand vous avez la gratuité qui est arrivée, il fallait prendre des mesures barrières, donc élargir des salles. Et élargir des salles, ça veut dire vous mettez des enfants par banc pupitre ou un enfant. C'est que vous élargissez la salle. Et la conséquence qui suit directement, c'est que il y a l'augmentation de la charge horaire. Parfois, ça se triple aussi. Alors, de tout ça, l'enseignant n'est pas vraiment sécurisé socialement. Et ça augmente des maladies. Nous nous sommes dit, il entend par thérapeute. Il va répondre à nos désirs.
Merci beaucoup.
Alors, je réponds encore. Donc, aucun enseignant ne peut aller à l'école si l'État n'avance pas dans ces prises de décision et que les solutions quant à ça n'est pas trouvée. Il va falloir que le gouvernement convoque encore les ministres de l'EPST pour demander ce qu'il faut et donner de l'argent parce que nous voyons quand même des actes posés. La question se pose, comment avec le gouvernement FCC Cash en 2019, septembre 2019, ils ont réussi à ajouter 39 000 francs à tous les 608 000 enseignants. Ils ont ajouté 100 000 francs à tous les enseignants de chefferie. Ils ont payé 50 000 écoles primaires. Ils ont pourvu 50 000 écoles primaires, les frais de fonctionnement qui nagent entre 600 et 500. Ils ont payé 132 614 MP. C'est énorme. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent en 2019, là. En 4 mois, ils l'ont fait. Ils ont payé 58 000 MI. Mais depuis le gouvernement de Warrior, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
on n'arrive pas. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Simon. Il y a beaucoup d'auditeurs.
On n'a plus rien.
Voilà, merci beaucoup, Simon. On va prendre Marie-Paul, qui est à Kisangani, pour vérifier un peu la situation à Kisangani. Marie-Paul, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kisangani, quelle est la situation de la reprise des cours?
Oui, en fait, il faut d'abord commencer à préciser que le métier de l'enseignant, c'est un métier régi par les droits internationaux du travail. C'est un métier régi également par les codes du travail. Donc, lorsque on traite l'enseignant, on doit les traiter conformément à tous les textes légaux et réglementaires. Et ce métier ne peut pas être constitué un mouroir où les gens sont traités de manière inhumaine, au point que ceux-là qui travaillent dans ce secteur ne font que des grognes et ne font que souffrir. C'est une situation qui est grave pour l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi beaucoup de ras-le-bol ne peuvent qu'être au rendez-vous aussi longtemps que les gouvernants, aussi longtemps que les politiques ne comprennent
oui, Marie-Paul,
pas absolument l'importance. Je vais revenir sur votre question.
Revenez rapidement ici, sur ma question. Quelle est la situation chez vous là-bas à Kisangani?
Oui, ici, il n'y a pas la rentrée, À part quelques écoles privées qui continuent avec le système passé de primes. Depuis que, on a décrété un système de gratuité, et aussi, mais beaucoup d'écoles, comme d'ailleurs l'a dit vos intervenants, l'un de vos intervenants. Donc la situation reste au point que il y a beaucoup d'élèves qui partent à l'école et que celui qui doit s'occuper de ces élèves-là n'est pas bien traité. Il y a une démotivation comme nous l'avons relevé et la rentrée qui a été bien évidemment déclenchée par les autorités n'est pas respecté. Il n'y a pas la rentrée ici, les étudiants, les élèves continuent à rester à la maison et que les écoles sont fermées parce qu'il y a quand même des choses qu'on doit arranger, on doit améliorer pour que la situation de l'enseignant soit quand même une situation humaine. Et ces situations-là ne font que, l'objet de renvoyer au calangue grec tout simplement dans des promesses. Non, ça, on ne dirige pas comme ça. Le pays doit être dirigé selon les textes, selon l'administration. Et que si dans le même pays, nous l'avons toujours dit, et qu'il n'y a pas une politique salariale, et qu'il n'y a pas l'observance, bien entendu, des SMIC, et au point même de réduire des tensions salariales, dans le même pays,
voilà,
l'enseignant qui forme le
stage,
lui doit être payé en de manière
dérisoire,
mais les autres, les politiques, se recoupent
de nous avoir fait une idée sur ce qui se passe actuellement à Kisangani. Alors, on va prendre Maître Edmond. Maître Edmond est en Bandaka. Maître Edmond. Alors, Christian, vous êtes à Kinshasa, Christian?
Oui, bonjour, Jérémy.
Alors,
bonjour.
Quelle est la situation là où vous êtes? J'ai parié que vous êtes à Limité.
Bon, déjà, il faudrait dire que il y a la rentrée, c'est vraiment de manière timide. Le premier constat, c'est que la plupart des salles sont sales. Donc, voilà, les quelques élèves qui
Est-ce que les enseignants sont visibles? Est-ce que les enseignants sont visibles là où vous avez fait ces constats?
En tout cas, déjà ici, par exemple, à l'Institut Lumumba 1 à Limété, 17e rue, il y a quelques enseignants qui sont là. Vous savez, ces professionnels de la CRE, malgré leur situation salariale, il y a d'autres qui font cette profession avec passion. En tout cas, il y a quelques enseignants qui sont visibles, mais aussi à l'école Béret, toujours à 17e rue. Et il y a quelques
Béret, c'est une école privée.
Voilà, en fait, c'est toujours une école, j'ai cité l'Institut Lumumba tantôt, c'est pour dire que dans quelques écoles, que ce soit pour les privés et pour les écoles publiques, il y a quelques enseignants qui sont là, mais le plus grand problème, en tout cas, il faudrait dire que la situation salariale des enseignants, c'est en fait un problème qui est entretenu par le gouvernement, c'est pratiquement un vieux démon. Depuis tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est les mêmes problèmes qui continuent à se faire sentir. Et donc, il faudrait vraiment une solution beaucoup plus globale, mais cela n'est pas à un temps record. Donc, ce que nous demandons maintenant, c'est beaucoup plus que le gouvernement puisse respecter ses promesses, parce qu'à chaque rentrée scolaire, c'est la même situation, c'est la même chanson. Et le gouvernement ne fait que promettre à toutes les choses du monde. Il promet planète et lune à ses enseignants, mais malheureusement, la situation ne change pas. Et aujourd'hui, il y a encore cette question-là des enseignants NI et NP, c'est-à-dire les nouvelles unités et les non-payés. Avec cet ajout des 40 000 francs, de la somme des 40 000 francs congolais, pratiquement, nous, on s'est dit, mais la situation semble vraiment inerte parce que la grande majorité de ces enseignants ne seront pas payés. ceux qui seront payés, en tout cas, ils seront comptés à bout des doigts. Et aujourd'hui, rappelez-vous, ceux qui touchent les enseignants, leur salaire, c'est 360 000 francs congolais. Bon, c'est quand même grand chose par rapport au passé, mais il faudrait maintenant prendre en compte à ceux-là qui travaillent, mais qui ne sont pas payés les nouvelles unités. Parce que même si on ajoute 40 000 francs congolais et que la grande majorité n'est pas prise en considération, ni dans le listing, ni dans les bulletins de paye, mais le travail ne sera pas bien fait, le travail sera faussé. Et donc, il faudrait vraiment prendre en compte l'ensemble de tous ces enseignants, que ce soit les enseignants debout ou les enseignants assis, ils sont très importants dans ce secteur. Donc, il ne faudrait pas négliger les uns au détriment des autres. Mais l'autre question, c'est aussi par rapport à certains outils, notamment le matériel didactique, mais aussi les bibliothèques qui, dans nos écoles, en tout cas, ça pose problème. Certaines écoles demandent des fournitures, demandent de l'argent aux parents, mais il n'y a pas de bibliothèque. Il faudrait veiller aussi sur ça, que les autorités veillent.
Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Nous l'avons dit, il fallait quand même que le banc syndical et d'autres partenaires de l'éducation puissent se retrouver en face du gouvernement pour poser des problèmes de manière claire. Alors, merci beaucoup, Christian. On va prendre Pierre Moussafiri. Là, nous sommes dans la partie nord-est et précisément à Bukavu. Pierre Moussafiri, vous êtes avec nous?
Bonjour Gilles, bonjour à tous les autorités de la radio Capi, bonjour à tous.
Les élèves sont-ils partis à l'école aujourd'hui? Est-ce que les enseignants sont là?
D'accord, monsieur Gilles, je dirais que dans certaines écoles, les élèves sont partis à l'école, les enseignants sont là, mais dans d'autres, il n'y a pas de rentrée scolaire ce lundi. Par rapport à la thématique, moi je dirais ceci. Au fur et à mesure, nous ne cherchons pas de vraies solutions à des graves problèmes. Ces problèmes nous reviendront toujours pour que nous cherchions de vraies réponses à ces dernières. Et nous serons en train de courir à des conséquences, surtout dans notre système éducatif. L'année passée, nous savons tous que les écoliers, les élèves n'ont pas pu étudier, surtout celles des écoles publiques, comme il fallait à cause des grèves des enseignants, qui ne faisaient que demander leurs droits. Et surtout les NUL, les non-payés et les nouvelles unités qui posaient problème. Et ainsi que l'ajout des salaires, mais aussi la COVID-19 qui exigeait la fermeture des écoles quelquefois. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, où l'on pouvait faire en sorte qu'il n'y ait pas perturbation des activités scolaires, mais nous trouvons que la question est loin de trouver sa solution. Monsieur Gilles, ce que le gouvernement a fait la semaine dernière avec les partenaires de l'éducation, par le biais du ministre de l'EPST et celui du budget, en ajoutant 40 000 francs sur le salaire de chaque enseignant, est une bonne chose. Mais c'est encore une promesse qui sera peut-être réalisée à partir de ce mois d'octobre que nous avons commencé vers la fin peut-être. Et jusqu'ici, la question des nouvelles unités et des non-payés pose problème. C'est une question qu'il faut chercher la solution. Les dollars qu'on a ajoutés encore, c'est encore avec les enseignants qui exigent 400 dollars. On ajoute 20 dollars sur les 118 dollars. C'est encore minime. Ils vont encore entrer à grève. Donc, nous ne serons pas surpris de constater qu'il y a encore grève des enseignants. Par exemple, chez nous, dans le Nord Kivu, précisément à Kiwanja, dans les Rutshuru, les enseignants disent que sur leur salaire, il y a un même retrachement et cela a été fait par rapport au grade. Certains se retrouvaient avec moins de 3750 francs et les autres 4000 francs. Au lieu de la majoration, ils se trouvent avec même les paies qu'ils ont, on a diminué. Et les membres des syndicats des enseignants ont dit qu'ils ne vont pas participer à la rentrée scolaire de ce lundi. Monsieur Gilles, vous voyez, ça c'est déjà un problème. Comme suggestion, moi, nous demandons au gouvernement de chercher de vraies solutions à des problèmes que traversent les enseignants. Sinon, l'injustice arrivera dans nos...
Alors, la grande question qui est soulevée, pourquoi à chaque rentrée scolaire, il y a toujours des confusions entre les syndicalistes et les gouvernements? Et pourquoi le gouvernement, disons, n'attend que les propositions qui viennent des syndicalistes qui ne sont pas reconnus parfois, ou soit des syndicalistes qui sont de leur obédience? Pourquoi ne pas mettre autour d'une même table les autres syndicalistes aussi et d'autres partenaires de l'éducation qui ne partagent pas forcément le point de vue du gouvernement? C'est ça la question pour trouver de manière définitive le mal qui ronge ces secteurs. Merci beaucoup Pierre d'avoir appelé. Alors on va prendre Edmond. Edmond, vous êtes avec nous, maître Edmond?
Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour, Gilles. Vous êtes en Bandaka. Quelle est la situation en Bandaka?
Bon, merci beaucoup, M. Gère. Je pense que à Manaka, la situation est calme. Bon, logiquement, je n'ai pas questionné dans les établissements publics, mais je pense que dans les établissements, dans les écoles privées, les portes sont ouvertes. J'espère bien que dans certaines écoles publiques également, la rentrée scolaire est effective. Et je pense que par rapport au débat du jour, j'espère bien que les enseignants, bien sûr que c'est leur droit de gréver, c'est leur droit de réclamer, doivent quand même nous épargner de certains tiraillements avec le gouvernement, parce que vous allez voir que la situation de la masse salariale, c'est une situation qui se traite dans les budgets de l'État. Et que lorsque le ministère de l'EPST prend l'initiative de pouvoir ajouter à chaque enseignant 40 000 francs dans le salaire, je pense que c'est déjà une avancée significative, en attendant que le Premier ministre puisse voir ce problème dans le budget qui est proposé à l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis, nous devons savoir que le calendrier scolaire de notre pays est perturbé avec l'avènement du Covid. Et chaque fois qu'il y a des grèves, parce qu'auparavant, la rentrée a toujours eu lieu au mois de septembre. Et aujourd'hui, la rentrée, c'est au mois d'octobre. Donc, nous avons un décalage d'un mois. Et lorsqu'ils vont gréver, c'est nos enfants, bien sûr, les enfants de ces enseignants aussi, parce qu'ils sont élèves, qui vont également en pâtir. Voilà pourquoi, moi, je sensibilise
les syndicats. Maître Edmond, entre une reprise de cours effective, avec des enseignants qui donnent effectivement un cours, ou qui donnent la matière, et la rentrée... la reprise des cours non effective avec des enseignants qui reviennent disons avec des solutions trouvées par le gouvernement. Vous préférez quoi, par exemple?
Non, moi je pense que la solution trouvée par le gouvernement, c'est une situation à prendre en compte, parce que la solution est déjà là. Il y a eu des réclamations avant même la rentrée. Et que le gouvernement a déjà avancé.
Des solutions en partie, oui.
Ouais, il y a des prémices de solutions, ouais.
Merci beaucoup, Maître Edmond. Alors, on va prendre Franck de Vienne. Franck, vous êtes éducateur, vous avez enseigné quand même dans certaines écoles à Bandundu. Aujourd'hui, vous avez un regard un peu de l'extérieur. C'est vrai, sûrement, vous avez eu à appeler aussi certains de vos amis sur place au pays. Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette situation?
Oui, merci beaucoup, mon ami Gère, merci pour les rappels. Nous devons commencer par rappeler que l'éducation des citoyens, c'est les poumons du développement, c'est les vecteurs même du développement de chaque pays. Parce que quand on éduque, on forme les cerveaux, un cerveau qui conçoit, un cerveau qui oriente, un cerveau qui planifie et un cerveau qui se projette dans l'avenir. Mais quand on commence à déstabiliser le secteur éducatif, donc on s'auto-détruit. C'est pour dire que nous devons reconnaître que si la RDC est détruite, elle est détruite par ses propres dirigeants politiques sur base de leur égoïsme de ne pas penser aux autres pour ne penser qu'à eux-mêmes. Et ce problème, nous l'avons depuis des décennies. Et quelquefois, nous devons donner raison à ces penseurs qui disent que pour détruire l'avenir d'un État, d'une nation, on n'a plus seulement besoin de se servir de la bombe atomique ou des armes de destruction massive, mais on a seulement besoin de déstabiliser le système éducatif. Et je crois que les politiques congolais se servent de cette objection pour mettre notre pays par terre. Mon ami Gère, mais la profession enseignante, c'est quelqu'un qui est vraiment à la base. Quand on néglige l'enseignant, mais vous voulez avoir quelle qualité de citoyen dans votre pays, vous voulez avoir quelle qualité d'homme. Quand on arrive à clochardiser l'enseignant qui doit former, qui doit éduquer, qui doit instruire, mais vous vous attendez à quoi? Moi, tout ce que je dénonce des injustices d'abord au niveau de la reconnaissance des mérites des autres. L'enseignant, ce n'est pas quand même n'importe qui. L'enseignant, ce n'est pas quand même un clochard. L'enseignant est au moins un citoyen qui est formé et qui a la responsabilité et la vocation de continuer à former en donnant une naissance intellectuelle. Mais malheureusement, dans notre pays, au lieu de valoriser la profession enseignante, on la choisit. Moi, personnellement, je ne peux même pas comprendre qu'on arrive à dire qu'ajouter 40 000 francs congolais, c'est déjà une piste de solution. Mon ami Gère, 40 000 Congolais par rapport au taux du dollar d'aujourd'hui. C'est 20 dollars, n'est-ce pas?
Oui.
Et si on donne à un enseignant un plafond de 118 dollars, on lui ajoute 20 dollars, ça donne combien?
138
dollars. Est-ce que vraiment, avec 138 dollars, nous pouvons vraiment nous réjouir, nous regarder les yeux en face et dire qu'on a vraiment trouvé des solutions?
Entre-temps, quelque part, il y a des gens qui sortent 300, 400 000 pour faire un don, 400 000 dollars, des sous fonds propres.
Ce qui est fait par nos dirigeants politiques, je dois me demander vraiment s'il sait la valeur de son intellectualisme ou s'il sait de quoi il est question.
Merci beaucoup, Franck.
Une des pistes de solution, c'est de réduire les traits de vie des institutions, de réduire les salaires des députés, des ministres et des sénateurs, et d'ajouter, on devait vraiment penser à donner aux enseignants
quelque chose au moins de consistant.
800 à 900 dollars, au moins.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Franck.
On va parler du développement, on va parler un avenir par rapport à quelle vision, par rapport à quel objectif, et qui doit s'en occuper.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Alors, on va conclure avec vous, Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des enseignants, des syndicats des enseignants. Alors, on a parlé. Quelle est la solution aujourd'hui? Donc, vous avez appris, vous êtes fait une idée quand même très claire de la situation qui prévaut actuellement, les mots d'ordre que vous avez lancés, s'il a été suivi ou non. Alors, ma conclusion, est-ce qu'allez-vous continuer à parler avec les gouvernements pour trouver la solution, ou vous allez observer école sans enseignants, de manière à ce que même si les enseignants sont à l'école, mais ils ne vont pas dispenser le cours?
Oui, merci beaucoup, JR. Mais vous savez que le syndicat fonctionne sur base du dialogue social. Nous n'allons pas et nous n'allons jamais refuser le dialogue, mais le dialogue dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un dialogue sincère. On ne peut pas continuer à fonctionner sur base d'un dialogue sur fond de ruse. Je crois que là, c'est fini. 190 000 francs qui est donné à l'enseignant pour qu'il fasse un travail correct, je crois que c'est un véritable scandale au moment où nous avons les députés qui ont 10 000 dollars, 13 000 dollars pour le Sénat. Je crois qu'il faudrait quand même que nous puissions rationaliser les choses. L'éducation de qualité, c'est un droit à chaque enfant congolais. Le salaire décent, c'est aussi un droit. Il n'y a qu'à faire un effort. D'abord, qu'il se dérode du passé où les syndicalistes étaient toujours corrompus. Cette fois encore, regardez à la commission paritaire, 300 personnes. Mais une messe de 300 personnes peut résoudre quel problème? Et voilà la commission paritaire qui a déboursé beaucoup d'argent. On a encore saigné des finances publiques pour rien. Je crois qu'il faudrait que le gouvernement revienne aux bons sentiments. Je dois comprendre que les méthodes du passé n'ont pas aidé ce pays. Le dialogue social s'est fait sur base des principes légaux, des principes syndicaux. On discute avec les syndicats porteurs de la revendication. Et non avec...
Mais pourquoi toujours votre syndicat, votre consortium de syndicats et des enseignants est toujours mis à l'écart?
Non, parce que nous portons simplement les aspirations des enseignants. Vous savez que tout ce qui arrive dans notre secteur en termes d'avantages, c'est par rapport à notre combat. Et nous sommes ouverts au dialogue. Si les gouvernements convoquaient les dialogues sincères, eh bien nous allons participer. Pourquoi pas?
Merci beaucoup, Jean Bosco Pouna.
Nous continuons à dire à nos enseignants de respecter les mots d'ordre des grèves. Un mois a été donné au gouvernement pour qu'il
réponde jusqu'au 1er novembre. Pour vous, la rentrée doit intervenir au 1er novembre. Merci beaucoup, Jean Bosco Pouna. Nous rappelons que vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Merci, il faut encore d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. C'est par ici que nous mettons un terme à ces programmes et nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs.